Bonjour, sœur Claire-Emmanuelle.
Bonjour Anne-Rose.
Sœur Claire-Emmanuelle, vous êtes religieuse de la congrégation des Sœurs de Saint-Fray, une congrégation qui est née dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Depuis le 27 avril, votre congrégation vous a envoyé à Jérusalem où vous pilotez, accompagnez en tous les cas, un vaste projet de restructuration de la maison Notre-Dame des Douleurs. C'est un EHPAD qui est situé à Jérusalem. Alors vous allez nous parler dans quelques minutes de ce vaste projet. Mais d'abord, on va profiter de votre passage en France. Hein. Là, vous êtes là pour quelques jours. Vous allez repartir à Jérusalem très bientôt. Vous allez nous raconter ce qui se vit là-bas. Peut-être d'abord commencer par nous expliquer où est-ce qu'est située votre maison, la maison Notre-Dame des Douleurs à Jérusalem.
Oui, alors notre maison est située à Jérusalem, à Jérusalem-Est, c'est un des quartiers de Jérusalem, au Mont des Oliviers, à côté de Betphagé, dans un quartier essentiellement musulman, pas très très loin pour ceux qui connaissent de la maison d'Abraham, qui est toute proche de nous.
Voilà. Il y a d'autres communautés chrétiennes qui vivent sur place?
Oui, dans la rue qui remonte notre maison, nous avons les pères passionnistes qui sont là, qui ne sont pas d'origine française. Ceux qui sont là, ils sont essentiellement philippins, et des sœurs de la charité qui sont juste aussi à côté de nous.
Votre maison est présente à Jérusalem-Est depuis 1957. Comment ça se passe? Vous dites dans un quartier musulman. Comment ça se passe la cohabitation?
En fait, avec les personnes du quartier, on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de liens, mais on essaie justement d'ouvrir notre maison parce qu'on voit la difficulté. Mais après, les gens sont très fraternels avec nous. Justement, là, comme je partageais tout à l'heure, on a vu entre l'Ascension et la Pentecôte, les musulmans ont vécu la fête de l'Aïd, c'est la oui. fête du mouton. Et en fait, dans ces moments-là, ils viennent généreusement nous partager ce qu'ils ont, et justement nous partager du mouton, nous amener une partie de leur repas. Pour eux, le sens du partage fait partie de leur religion, et avec nous, ils ont de très très bonnes relations. D'ailleurs, la plupart des salariés de la maison sont musulmans, et pour eux, le home Notre-Dame des Douleurs, c'est leur maison, c'est le home, c'est la maison.
Donc le home Notre-Dame des Douleurs, c'est une résidence pour personnes âgées, mais c'est aussi le lieu de vie de la communauté des sœurs dont vous faites partie.
Oui, on est actuellement 4 religieuses, on vit sur place, on vit avec les personnes âgées, et en ce moment aussi, du fait des difficultés, il y a des salariés qui ont des difficultés à passer. Donc du côté de Jérusalem, 6 journées non occupées au côté de Jérusalem. Donc ils doivent passer de checkpoint parce que en ce moment c'est très tendu. Et donc ils n'arrivent pas à passer tous les jours. Et donc il y en a qui sont hébergés chez nous le temps que la circulation soit plus aisée.
Voilà. Vous êtes combien de sœurs sur place?
4 religieuses.
4 religieuses, combien de résidents?
On a 28 résidents en ce moment. On devrait avoir la possibilité d'en accueillir jusqu'à 50, mais la situation est telle que beaucoup oui. n'arrivent pas à financer l'accueil dans la maison, même si beaucoup sont hébergés gratuitement ou presque gratuitement. Mais les familles, pour elles, c'est compliqué d'arriver oui. à les amener dans notre maison, pas parce que c'est pas un lieu accueillant, au contraire, mais il y a besoin d'aider au financement, et donc ils ont beaucoup de mal en ce moment.
Voilà. Voilà, aider au financement aussi parce qu'il faut du matériel, oui. il faut des médicaments, enfin oui. on imagine qu'il suffit pas simplement de manger, il y a tout le reste.
En fait, quand une personne vient dans la maison, en fait on n'est pas encore reconnu comme maison de retraite officielle par oui. le ministère de la Santé israélien, parce qu'on est en Israël, dans cette zone-là, on est en Israël. On est plus reconnu comme maison de repos, hein, pas maison comme maison
donc
de
retraite. Donc ce n'est pas un EHPAD comme on l'entend non. ici en France.
Voilà, pas du tout. Et donc là, les personnes, donc au niveau médical, il faut qu'elles prennent en charge tous leurs soins, tous leurs médicaments. Dès qu'il y a une hospitalisation, il faut qu'elle paye tout. Tout ce qui est médical, c'est pris en charge. Ça devrait être pris en charge par les familles. Mais comme justement la vie en ce moment en Israël, c'est un cataclysme, ce oui, qui se vit. Oui. Du coup, ils n'ont même pas les moyens d'arriver à payer le quotidien, c'est-à-dire uniquement aider à ce que la personne puisse vivre chez nous. Donc le plus, ça ne devrait pas faire partie du plus, mais le plus, c'est le soin. Et donc il y en a, mais ils n'ont même pas la possibilité de payer les médicaments ou tous les médicaments, mais en plus, même dans les pharmacies, des médicaments, certains, on ne les trouve plus.
Donc on a du mal à trouver les médicaments et le matériel de soins, oui. et quand on le trouve, on a du mal à l'acheter parce que c'est extrêmement cher.
Très cher. Les prix, c'est impressionnant, les tarifs des prix sur place. Et après, ben, par exemple, on a une personne âgée, ben, on devait lui mettre une sonde gastrique, ben, on n'avait même plus les sondes.
Alors, voilà. Comment vous faites dans ces cas-là?
On va quémander auprès des médecins qu'on peut connaître, qui travaillent dans les hôpitaux, et eux, ils essayent de nous en trouver pour nous aider. Donc, c'est vraiment la survie des personnes. Quoi.
Donc, ça marche, si vous, les sœurs, vous pouvez négocier, quémander, comme vous dites, sœur Claire Emmanuelle, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont délaissées pour compte?
Tout à fait. Je veux dire... Notre congrégation, au début, quand Marie Saint-Fray a commencé dans les Pyrénées, elle faisait la quête. Elle allait de maison en maison, elle allait dans les campagnes pour quêter. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la quête actuelle. Quoi. Et vraiment, cette présence dans ce lieu-là, j'en suis émue rien que d'en parler, c'est quêter pour elle, quoi, pour qu'elle vive.
Comment vous faites, vous, les sœurs, pour pouvoir assurer... Alors, bien sûr, il y a la partie des soins, puis il y a le quotidien. Je parlais de la nourriture, mais enfin, il faut bien que vous et les résidents et les salariés, et peut-être aussi des bénévoles, je crois qu'il y a des bénévoles de temps en temps qui sont présents, si tant est que ce soit encore possible. Il faut se nourrir aussi. Cette question-là de la nourriture, elle est aussi laborieuse que celle des médicaments?
Elle est aussi laborieuse, mais je peux dire que le Seigneur veut qu'on reste dans ce lieu. On a des signes, mais tous les jours. Je peux citer un exemple, si c'est possible. Oui. Pendant que j'étais, donc il n'y a pas très très longtemps que je suis dans la maison, on s'est retrouvés un jour, on a dit, dans quelques jours, il faut penser, on n'aura plus de confiture. Ça paraît banal, la confiture.
On est bien contents d'en avoir.
On n'en avait plus. Et arrive le jour où on dit, ça y est, on n'en a plus. Alors on dit, on va voir comment on va faire. Voilà, on s'est dit, il faut qu'on aille acheter de la confiture. Et le téléphone sonne. Un bienfaiteur arrive, un monsieur qui a dit « Si vous voulez, je peux vous faire don de confiture. » Et il a refait notre stock pour plusieurs mois. Donc voilà, un détail. Après, une autre personne aussi qui est arrivée un jour à la maison avec une voiture chargée à bloc en disant « Mes sœurs, voilà, je viens vous voir parce que mon fils a eu un grave accident de voiture et je vous demande de prier pour lui. Je sais que vous faites beaucoup de bien autour de vous et on veut vous aider. Et on vous amène tout ce qu'on a pu trouver au supermarché. » Et notre magasin dans la maison était presque... L'économat était en train de se vider. On se disait « Il va falloir aller faire des courses. » Et bien, il nous a rempli l'économat. Et en nous disant, demain, je reviens avec des légumes, des fruits, tout ce dont vous avez besoin. Pour prier, en fait, pour rendre grâce pour ce qu'on fait, pour nous aider dans notre mission. Les gens savent qu'on vit pauvrement, qu'on vit simplement. Et la providence veille et les gens sont généreux. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi, quoi, pour la générosité des gens, pour remercier déjà.
Alors, vous êtes aussi au micro de Radio Présence aujourd'hui pour nous parler du projet que j'ai annoncé dans l'introduction de cette émission-là, un vaste projet de restructuration de cette résidence, le home Notre-Dame des Douleurs, puisque vous accueillez aujourd'hui 28 personnes, mais votre projet, c'est d'accueillir davantage et d'accueillir mieux. Avant que vous nous expliquiez quand même ce qu'il y a derrière et comment vous allez pouvoir le financer, vous nous décrivez quand même une situation très complexe, laborieuse au quotidien. Comment on peut avoir la motivation d'élargir un accueil, une résidence pour personnes âgées dans un contexte tel que celui-ci?
Déjà, comme je le disais tout à l'heure, on entend que les gens nous disent « restez, ne partez pas, on a besoin de vous ». Votre présence, elle est importante et c'est ça qui nous motive en fait. On fait confiance à demain, ce que sera demain. Et donc, on a envie de croire. Et les gens ont besoin de cette présence. Ce n'est pas nous, concrètement, c'est ce qui se vit dans cette maison. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui, autour de nous, ont tout fait pour essayer de nous aider, pour maintenir. Dans ce quartier, en fait, il n'y a pas de maison de retraite. Il n'y a pas d'accueil de soins pour des personnes, même du quartier.
Vous êtes le seul lieu où les gens peuvent être pris en charge, où on prend soin des autres, en fait,
tout
de ses frères.
Vraiment, tout à fait. Et donc, pour eux, c'est essentiel. Même le ministère de la Santé israélien, ils tiennent absolument à ce qu'on vienne et qu'on reste dans ce lieu-là. Parce qu'ils savent très, très bien qu'eux ne viendront pas. C'est difficile de penser ça ici en France quand on se dit qu'on peut circuler librement, aller où on veut, comme on veut. Là-bas, c'est palpable, on voit très très bien. Bon, je suis désolée de dire comme ça, mais en fait, dans notre quartier, c'est musulman, les personnes juives ne viennent pas. ne viennent pas. Donc, ils savent très, très bien que cette zone-là qui est annexée, Cisjordanie annexée, c'est Jérusalem-Est, ils savent très bien que la population qui est là est musulmane et eux ne viendront pas.
Et cette population musulmane, pardon, je vous coupe, cette population musulmane, elle vous fait confiance
pour
cet accès aux soins ?
Tout à fait. Au contraire, on est leur famille, en fait. Ils ont vraiment confiance en nous. Ils savent que les soins qui sont prodigués, il n'y a pas de prosélytisme, ils savent qu'on respecte les gens qui sont là et que c'est vraiment le Christ qu'on sert, quoi. Dans l'homme, on voit l'homme avant tout. Et donc, du coup, même le ministère de la Santé a validé le projet qu'on va faire et ils veulent qu'on reste là parce qu'ils savent qu'on va s'occuper de cette population.
Donc, l'objectif, c'est d'être une grande mise aux normes, en fait, de votre bâtiment, de votre résidence pour pouvoir accueillir plus et mieux.
Oui. En fait, c'est vraiment... Une fois qu'on sera reconnu ministère de la Santé, que les travaux, nous espérons qu'ils vont commencer mi-août, on a un an de travaux au minimum qui doivent avoir lieu prochainement, débuter prochainement. Étant reconnu ministère de la Santé, les personnes qui vont venir dans cette maison de retraite pourront, en expliquant tout le peu de ressources qu'ils ont, pourront être pris en charge parce qu'ils sont résidents israéliens, même s'ils sont dans une partie annexée.
Mais donc, quelle que soit leur religion.
Oui. Ils sont résidents israéliens, même si on peut voir qu'ils sont. Voilà.
Oui.
Ils pourront être pris en charge au niveau du soin. C'est-à-dire que du coup, la vie dans la maison sera prise en charge par le ministère de la Santé et les soins aussi, c'est-à-dire que les hospitalisations, les médicaments. Et donc nous...
Ça veut dire un soulagement pour vous, les sœurs. Vous
allez pouvoir faire... Et des fins de vie de qualité.
Ah oui.
Des accompagnements de qualité, des soins respectueux. On ne dit pas que ce n'est pas des soins respectueux. Au contraire, on essaye de maintenir ces soins de qualité, mais dans une précarité énorme.
Oui.
Aujourd'hui, on fait du porte-à-porte pour... Voilà ce que je disais tout à l'heure, une personne qui avait des escarres parce qu'elle revenait de l'hôpital, elle était dans un état de santé, mais déplorable. On n'avait pas de crème, on n'avait pas de pommade, on n'avait pas de pansements adaptés. Les seuls pansements qu'on avait, c'était des pansements qu'on avait ramenés nous de France ou que des bénévoles nous avaient amenés. Mais ça coûte tellement cher d'arriver à avoir ces pansements. Il a fallu aller faire la quête dans un hôpital chrétien, l'hôpital Saint-Louis. Je rends grâce pour cet hôpital qui nous a aidés pour avoir...
Et qui se trouve où
Qui se trouve à côté de la Porte Neuve, à côté de Jérusalem, au centre de Jérusalem, et qui est reconnu ministère de la Santé et qui nous a aidés à nous procurer ponctuellement un peu d'aide. Mais c'est grâce à eux qu'on a pu arriver à mieux soigner cette dame. Elle va mieux, elle n'est pas encore guérie parce que les escarres, ça prend du temps à être guérie. Mais c'est grâce à cette aide, à cette entraide. Il y a beaucoup de fraternité entre les chrétiens.
En tous les cas, ce projet, c'est aussi pour vous gagner un peu en autonomie, pour être plus concentré sur la qualité de la fin de vie pour ces résidents qui sont âgés, qui sont malades, qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Vous êtes aidé financièrement pour porter ce projet, pour le déployer ?
Alors là aussi, je veux dire qu'on rend grâce aussi pour arriver à mener à bien ce projet. C'est un projet conséquent avec un montant qui est assez élevé. Je peux dire montant de 2 900 000 euros. Et on a eu, là aussi, l'Europe a ses défauts, mais elle a tous ses avantages aussi.
Bien sûr.
Et il y a un service au niveau de l'Europe qui aide la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et on a fait partie de cette aide-là. Ils nous aident à hauteur de 2 300 000 euros. Mais on a la mission pontificale qui est une œuvre d'église qui nous aide à hauteur de 200 000 euros. Mais il nous reste plus de 400 000 euros à trouver.
Donc, ressources
Alors, ben justement,
quelle solution ? Radioprésence.
Entre autres, on fait appel à toutes les personnes qui peuvent nous aider.
Mais concrètement, comment on fait là, les auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui, s'ils veulent vous soutenir, comment ils font?
Alors, s'ils peuvent nous aider, c'est envoyer des dons à la maison Marie-Saint-Fray à Tarbes, à la congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs, en précisant si vous faites un chèque à l'ordre de congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs, dont Jérusalem, voilà. Et après aussi, si vous voulez avoir des précisions, parce qu'on se dit, la petite obole de la veuve, la piécette de la veuve, les 5 euros tous les mois, on dit, s'il y a des possibilités de virement, les 5 euros, nous, on les accepte, au contraire, avec joie. Vous pouvez téléphoner à l'Economa Générale au 05 62 44 01 98 05 62 44 01 98. Et donc vos chèques, les envoyer dont Jérusalem, congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs, de rue Marie-Saint-Fré à Tarbes. Merci d'avance pour tout ce que vous pourrez faire.
Alors, on marque une pause, sœur Claire-Emmanuelle. Vous restez avec nous parce que vous allez nous raconter aussi comment vous vivez cette vie à Jérusalem et notamment comment vous avez vécu les bombardements du 13 juin, puisque vous y étiez. Vous nous racontez ça dans un instant. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de sœur Claire-Emmanuelle, religieuse de la congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs, qu'on connaît sous le nom des sœurs de Saint-Fray dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Sœur Claire-Emmanuelle, vous nous avez présenté cette maison, le home Notre-Dame des Douleurs à Jérusalem-Est, là où vous êtes depuis le mois d'avril. On a bien compris ce souci que vous avez de déployer un lieu qui puisse bien accueillir les personnes âgées et personnes en fin de vie pour bien en prendre soin. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va parler de la situation actuelle. Le 13 juin, il y a eu ces bombardements, ces missiles iraniens qui ont visé les villes de Tel Aviv et de Jérusalem. Vous y étiez. Vous, comment vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez vécu le 13 juin, sœur Claire-Emmanuelle ?
La terreur. La maison qui tremble.
Qui tremble vraiment, les murs qui tremblent.
Ah oui, les vitres, tout qui tremble, les sirènes. Et avant ces sirènes, tous les téléphones, toutes les lignes téléphoniques qui étaient israéliennes, on reçoit des appels qui résonnent dans le téléphone, comme quoi il y a des... On comprend après, mais au début, on se demande, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est ? On voit que tout, on a nos téléphones qui vibrent, et c'est des messages en hébreu. Et qui nous disent du coup d'aller se cacher, se mettre à l'abri.
Et vous avez de quoi vous mettre à l'abri ?
Non, rien. Absolument
vos
rien.
Vos résidents, vous ne pouvez pas les abriter dans
non.
ces cas-là ?
Non, rien du tout.
Alors comment vous faites ?
On reste avec, on les rassure, on se continue à s'occuper d'eux et on fait tout ce qu'on peut pour les pacifier et on prie.
Ils comprennent ? Ils ont compris le 13 juin ce qui se passait ?
Oui. Parce qu'en fait, depuis quelques jours, on avait les informations qui, en langue arabe, mettaient beaucoup de reportages où on sentait que les tensions augmentaient. Et ils comprenaient très très bien qu'il allait se passer quelque chose. Mais là, après que cette nuit-là, on croirait qu'on a des feux d'artifice qui vous passent au-dessus. Mais quand vous entendez ces sonneries sur le téléphone, vous comprenez bien que c'est autre chose, quoi. Et puis après, quand ça se rapproche et qu'en fait, on nous indique que c'est dans notre quartier, au-dessus de nous, Jérusalem qui est là, on voit le dôme de la mosquée Al-Aqsa, de l'esplanade des mosquées qui est tout illuminé, qui est là à 5 minutes de chez nous. On la voit de nos fenêtres et qu'on entend cette sirène qui résonne, on pense à la guerre, enfin aux sirènes qu'on entendait dans les films, mais en fait on n'est pas dans les films, on est dans la réalité. Et là on a peur, on a peur pour nous, on a peur pour la maison, on a peur pour tout. Et ça c'est plusieurs fois par jour et surtout la nuit. En pleine nuit, on est réveillé, on se lève et on se dit ça y est, ça repart. Et on est là en espérant qu'il va rien se passer.
Que ça ne tombe pas sur votre, ouais. pas sur votre
et
maison.
Et même les débris, que même des débris ne tombent pas. Heureusement, voilà. Nous avons été préservés.
Ça veut dire que si vous êtes en train de donner des soins, si vous êtes en train d'accompagner le moment du repas, vous êtes obligé de faire comme si la vie continuait, parce que la vie continue malgré tout.
La vie continue malgré tout et on essaye surtout de rassurer les personnes. Voilà. Rassurer les personnes qui y sont comme on peut et se dire de toute façon si ça doit arriver, ça arrivera et de toute façon nous n'avons pas de lieu. Nous n'avons pas, on ne pourrait même pas arriver à descendre toutes les personnes âgées. Déjà, ce n'est pas prévu, mais en plus, déplacer tout le monde, il y en a qui même sont dans des lits, qui ne sortent pas de leur lit. Ce n'est pas possible quoi, d'arriver, et on ne pourrait pas le laisser. Enfin, ce n'est pas possible.
Les salariés ne sont pas là tout le temps. Alors, comment ils reviennent après ? Enfin, on imagine que les accès à la maison sont compliqués, même pour les salariés.
Oui. En fait, on a 15 salariés dans la maison.
Ouais.
Deux sont chrétiens et les autres sont musulmans. Et pour ces 15 personnes, deux uniquement sont de Jérusalem, pas très loin de chez nous. Tous les autres sont en Cisjordanie et donc doivent passer des checkpoints tous les matins. Tous les 6 mois, on demande des permis.
Ah oui.
Et on demande aux autorités l'autorisation de les laisser venir en justifiant qu'ils travaillent chez nous. Ce qui veut dire que tous les matins, 1 ou 2 heures avant d'arriver chez nous, ils doivent se présenter, faire la queue dans des passages, mais on ne peut pas imaginer même commencer. Quoi. C'est pas humain même, la façon dont on les fait attendre. Oui, je pourrais même pas
dire. Ils sont malmenés.
Certains le sont, mais ils nous disent. Certains sont battus, certains on les laisse pas passer.
Et pourquoi leur... Juste parce qu'ils demandent à passer, oui, pour aller travailler.
Oui, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont cisjordaniens, parce qu'ils sont pas israéliens. Et donc déjà, s'ils arrivent à passer, c'est merci Seigneur. S'ils arrivent pas à passer, ben ils nous appellent, ils nous envoient des messages, ils disent ben aujourd'hui on peut pas. Et donc là, pendant la période où il y a eu le conflit entre l'Iran et Israël, tous les checkpoints étaient bloqués. Ça veut dire impossibilité d'arriver à traverser. Et donc ils ont eu connaissance de certains lieux où certains contrôleurs israéliens étaient moins regardants. Et ils ont fait, nous qui parfois avec notre trottinette électrique on va au travail, eux ils ont fait jusqu'à 3 heures de voiture pour pouvoir partir, je pense à un dont je parlais tout à l'heure, de Ramallah à Bethléem. Quand on voit la carte, on voit bien que c'est carrément à l'opposé du lieu pour à nouveau refaire la queue, passer ou pas passer, on ne sait pas, pour pouvoir venir travailler, gagner leur vie. Et puis le soir, recommencer en se disant mais peut-être que demain, j'arriverai pas à passer. Et donc comme ça, on a certains salariés qu'on a accueillis dans la maison qui ont voulu du coup, parce qu'ils aiment la maison, et ils disaient ben, si les salariés ne viennent pas, c'est les 4 sœurs, en sachant que sur les 4 sœurs, on a 2 sœurs de 80 ans. C'est les 4 sœurs qui vont s'occuper des personnes âgées, et ça veut dire tout faire, le repas, les soins, le ménage. Et donc, ils savent ça, parce qu'on fait partie de leur famille, ils le disent bien. Tous les salariés, ça fait des années qu'ils sont dans la maison. Ils sont pas là que depuis quelques jours, sont là depuis très longtemps, on fait partie de leur famille. Ils disent, on ne peut pas vous laisser. Et puis aussi, ils ont besoin de vivre. Parce que
s'ils ne viennent pas travailler, ils n'ont pas de salaire. S'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas leur propre famille.
C'est ça. Et bon, du coup, on en a certains qui sont venus, qui sont restés nous aider, mais malgré tout, tous n'arrivent pas à venir. Et donc, la situation est très tendue.
Aujourd'hui, là, presque un mois après ces bombardements du 13 juin, comment est le quartier ? Est-ce qu'il y a une crainte permanente, une tension permanente ? Comment vous sentez les choses, les habitants ?
En fait, quand je suis partie, les assauts de l'Iran allaient finir 2 jours après que je sois partie. C'était une tension permanente, en fait. Même pour les denrées, pour avoir ce qu'il y avait à avoir pour pouvoir se nourrir. On faisait des réserves d'eau, des réserves de pain. On nous annonçait qu'il fallait faire attention même au niveau du pain parce qu'apparemment la farine allait manquer. Voilà, pour pouvoir nourrir tout le monde, on faisait des réserves de tout. Mais même après, il faut savoir que pendant le moment des tensions, Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, était des cinquantaines et des centaines de militaires qui entouraient la ville. Pour pouvoir rentrer dans Jérusalem, on a une petite sœur de Jésus qui est salariée dans notre maison. Elle n'avait le droit de re-rentrer dans Jérusalem que parce qu'elle avait son passeport et parce qu'elle avait une attestation certifiée de la maison, comme quoi elle vivait dans Jérusalem. Personne ne pouvait rentrer dans la vieille ville de Jérusalem parce qu'ils avaient trop peur qu'il y ait des attentats, qu'il y ait des mouvements de foule, sur les lieux saints. Et elle me racontait qu'en fait, donc nous, depuis que je suis allée un peu avant ces événements, mais depuis, personne ne peut rentrer dans Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, le matin à 6 heures, il y a une messe, mais porte close. Et après, vous ne pouvez plus rentrer. Du vendredi au dimanche, l'esplanade des mosquées, le mur des lamentations et le Saint-Sépulcre sont fermés. Personne ne peut y aller de peur de qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est une tension permanente. On sent de la suspicion. Et puis, tous les lieux officiels, la poste, les bus, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Vous n'aviez plus rien. Vous aviez juste le minimum des magasins.
Et vous vous sentez, les gens là-bas se sentent en sursis, comme des survivants, où ils se disent ça va passer ou, alors, l'espérance, il y a un peu d'espérance que ça passe et que ça passe durablement.
On sent à la fois de la désespérance, du désespoir, de se dire mais comment on va s'en sortir, et à la fois la vie. La vie est plus forte que la mort, et donc il y a des sursauts, en fait. Et c'est pas qu'on s'habitue, parce qu'on sent que c'est très tendu, il y a une agressivité, quoi, qui est quelque part légitime, parce que c'est des agressions quotidiennes, en fait. Mais à travers ça, je veux pas dire que je fais l'amalgame entre tout le monde. Au contraire, on a, je peux citer le cas, on a un avocat qui est juif, qui est de Jérusalem, qui est très proche de nous. Et même pendant les événements, je lui ai envoyé des messages pour savoir comment il allait, comment allait sa famille. Et même lui, il nous demandait. Donc là-bas, les gens ont envie, autant juifs que chrétiens, que musulmans, ils en ont marre en fait. Ils ont envie que ça cesse et tous ont envie de la paix. Ils prônent cette paix. Mais c'est vrai que par moments, c'est tellement tendu que du coup, oui, il y en a qui ont envie de baisser les bras. Oui. Et
y a mais il y a des familles, il y a des enfants.
Bien sûr, il y a très grande précarité, il y a des tensions énormes, oui, des tensions qui sont palpables. Ça se sent quand vous circulez. Je ne retrouve plus Jérusalem que j'avais connue avant.
Oui.
Non, plus du tout.
Je parle des enfants. Il y a l'école continue. Comment ça se passe pour les enfants quand
pendant les événements, tout était fermé.
Ouais.
Tout était fermé. Toutes les écoles, les enfants qui devaient finir leur année scolaire, passer les examens et tout ça, tout a été interrompu. Là, quand je suis partie, ça n'avait pas encore repris. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et après, ce n'était que les lieux comme les grands hôpitaux qui avaient même des parkings souterrains. Ils avaient descendu tous les malades. Ils avaient recréé un hôpital souterrain.
Dans les parkings.
Dans les parkings. Tous les lieux d'intervention et tout ça, tout avait été délocalisé dans les parkings. Donc, ceux qui peuvent... Ils peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, eh bien, ils ne peuvent pas.
Sœur Claire-Emmanuelle, vous allez repartir dans quelques jours.
Dimanche,
dans votre valise, vous emmenez des médicaments.
Des médicaments, oui. Beaucoup de médicaments.
Le trajet jusqu'à Jérusalem, il est toujours compliqué aujourd'hui. Pour venir en France et là pour repartir, comment ça se passe?
Alors en fait, j'avais su que mon vol était annulé. J'ai essayé jusqu'au dernier moment de le renouveler en partant de Tel Aviv, mais ça n'a pas été possible. Du coup, on nous a dit qu'il y avait peut-être des possibilités par Amman. Mais après, au dernier moment, je faisais Amman-Beyrouth, Beyrouth-Munich, Munich-France. Et finalement, le Beyrouth-Munich a été annulé du fait justement des tensions. Et j'ai dû faire une fuite en Égypte des temps modernes. passer par la frontière entre l'Israël et l'Égypte, et ça fait 12 heures de voyage en redescendant presque jusqu'à Sharm el-Sheikh pour remonter par le canal de Suez et revenir au Caire. Voilà.
Et là, néanmoins, vous avez envie de repartir quand même.
Ah, mais je pense qu'aux sœurs et qu'aux personnes âgées, et j'espère que voilà, tout va bien se passer, parce que revenir par Tel Aviv, apparemment, c'est pas encore possible, même si on annonce que les vols sont en train de reprendre. Toutes les compagnies ont peur de se relancer dans ces mouvements aériens. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas encore sûr que je puisse aller directement par Tel Aviv. Même là, une dame bénévole que j'ai eue là tout à l'heure au téléphone, qui tient plus que tout à venir nous aider à partir du 25 juillet, elles sont trois Françaises. Elles sont très courageuses.
Donc ça, c'est possible.
S'il y a des vols, elles peuvent venir, oui. S'il y a des vols, elles peuvent venir.
Merci beaucoup, Sœur Claire-Emmanuelle, pour votre témoignage vraiment incroyable, exclusif. Merci d'avoir pensé à l'antenne de Radio Présence pour venir nous raconter tout cela. Et puis, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent vous soutenir, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner, porter avec vous ce projet de restructuration de la maison Notre-Dame des Douleurs à Jérusalem-Est, puisque le projet, eh bien, c'est d'agrandir, d'améliorer, de mettre aux normes pour pouvoir accueillir plus de personnes âgées, plus de personnes malades, et de dispenser des soins à tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur religion. On peut donc vous soutenir en envoyant un chèque à la congrégation des Sœurs de Marie Saint-Fray à Tarbes, la congrégation Notre-Dame des Douleurs, c'est 2 Marie Saint-Fray à Tarbes. Et on peut aussi mettre en place un prélèvement automatique, par exemple. Et pour cela, il faut contacter l'Economa Générale au 05 62 44 01 98, 05 62 44 01 98. Merci beaucoup, Sœur Claire-Emmanuelle. Bon retour à Jérusalem, bon courage et puis tenez-nous au courant.
Oui, pas de problème.
À bientôt.
Merci à vous, merci aux auditeurs et à toutes les personnes qui pourront nous aider. Merci.